Gold Sport. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Mondial Sport, actualité, entretien, reportage, tous les temps forts du sport international comme chaque week-end. Le CHAN en Algérie pour démarrer ce soir, pas de faux pas pour le pays hôte hier, les résultats du jour. Et on tâchera aussi de savoir d'où vient ce fameux slogan 1, 2, 3, viva l'Algérie, clamé par les supporters dans les stades locaux. Mais bien au-delà. La 20e journée de Premier League, United renverse le derby de Manchester contre City et redevient un prétendant crédible au titre. Retour également sur le naufrage de Liverpool à Brighton, des Reds qui tremblent de plus en plus pour une place en Ligue des Champions l'an prochain. Naples plus que jamais lancé sur la route du Scudetto après avoir corrigé la Juve et grâce notamment à Victor Osimhen. La disparition d'Alain Dacosta, le sélectionneur historique et héroïque du Gabon, le premier technicien à avoir fait de l'équipe nationale une quart de finaliste de la CAN dans les années 80. Et puis le mondial masculin de handball 2023, la France déjà au tour principal. Et puis vous souvenez-vous du pivot de la RDC, Gauthier Mvumbi, comparé il y a deux ans à la star Shaquille O'Neal. Eh bien il a pu rencontrer la légende du basket aux États-Unis. Il nous racontera. Marhaba, bienvenue en arabe, le salut de l'Algérie au reste de l'Afrique et aux 16 nations participantes au CHAN 2022, la compétition dédiée aux footballeurs d'une nation du continent jouant dans le championnat de leur propre pays. 17 équipes au total. Et pas 18, puisque le Maroc, double tenant du titre, a fait rebrousser chemin à sa sélection alors qu'elle était prête à partir pour Constantine. Une fois de plus, le conflit politique entre les deux pays autour de la question du Sahara occidental a pris le dessus. C'est donc sans les Lions de l'Atlas que cette 7e édition a démarré hier. 4 matchs ont déjà eu lieu, 3 aujourd'hui, 0-0 entre l'Éthiopie et le Mozambique et entre la RDC et l'Ouganda. Le Sénégal l'a emporté il y a quelques minutes sur la Côte d'Ivoire 1-0. Et hier, l'honneur d'ouvrir ce CHAN est bien sûr revenu aux Algériens dans le stade Nelson Mandela à Baraki, en banlieue d'Alger. Une enceinte toute neuve et pleine à craquer. 40 000 personnes ravies de voir leur sélection à prime l'emporter 1-0 sur la Libye après l'avoir encouragé au rythme du fameux 1, 2, 3, viva l'Algérie. Un slogan en anglais, bien connu, des supporters et repris en chœur à chaque célébration de victoire. Mais au fait, d'où vient-il ce slogan? L'un de nos envoyés spéciaux, Thomas de Saint-Léger, a tenté de percer le mystère de ses origines sur place.
C'est l'histoire d'un slogan incontournable. Que vous soyez à Paris, Yaoundé ou Alger, vous l'avez forcément entendu. Mais à quel parolier de génie doit-on la paternité du 1, 2, 3, viva l'Algérie au pays? On a plusieurs versions.
Il y a des hypothèses. Il y a qui disent que la base c'est 1, 2, 3, c'est par rapport à avant l'indépendance, quand on était colonisé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je veux être libre, voilà, c'est où je veux être en anglais. Après, pourquoi c'est devenu 1, 2, 3, viva l'Algérie, je ne sais pas.
Je pense qu'il y avait un chanteur déjà aux années 90-2000. Non, il y a le chanteur, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, il a chanté cette One Be Free, comme il a dit mon ami. Donc elle s'est transformée en One, Two, Three, Viva l'Algérie, c'est ça.
Un rapide sondage nous permet de le constater, l'hypothèse du One to Be Free clamée pendant la colonisation récolte le plus de suffrages, et pourtant...
C'est une couleuvre trop grosse, elle peut avaler un camion, ça n'a jamais existé. C'est l'imagination fertile de gens qui veulent initier quelque chose et lui donner un ancrage. Non, jamais.
Yazid Ouaibé, journaliste au quotidien El Watan, véritable mémoire du sport algérien, il va nous livrer la vérité.
Le 1, 2, 3, viva l'Algérie, est apparu en 78 à l'occasion des Jeux africains que l'Algérie avait organisés. Ça s'est passé à la salle Harcha Hassan, une salle réservée exclusivement au sport co. Surtout le handball. Bien sûr, les supporters du handball venaient des lycées et de l'université. Il y avait quand même un truc de classe. Et c'est à partir de là que les supporters de l'équipe d'Algérie de handball ont commencé à balancer les slogans One, two, three, vive l'Algérie.
D'une salle de handball au stade de foot, finalement, peu importe l'origine, ces huit syllabes sont aujourd'hui reprises en chœur comme un mantra.
C'est un slogan assembleur pour être sorti déjà d'Algérie, dans des pays étrangers et tout. Dès que tu rencontres un Algérien, tu entends One, two, three, vive l'Algérie, ça fait chaud au cœur, ça nous représente.
Il résume la fierté algérienne, en fait. C'est la fierté, la fierté.
C'est un truc vraiment ancien qu'on utilise vraiment et fréquemment. Donc voilà, One, two, three, vive l'Algérie, ça restera gravé dans l'histoire algérienne.
Gravé aussi dans les têtes, vos têtes où vous êtes prévenus, ce One, two, three risque de tourner une bonne partie de la nuit. Thomas de Saint-Léger, Alger RFI.
Et nul doute qu'il ressurgira dans les tribunes de ce stade Nelson Mandela mardi pour le deuxième match des Algériens contre l'Éthiopie. En attendant le programme de demain, eh bien, il est réduit à un seul match, Madagascar-Ghana, puisque le Soudan n'a plus d'adversaire. Ça devait être le Maroc. Les Marocains, ironie du sort, vont bientôt accueillir leur propre compétition de foot, la Coupe du Monde des clubs du 1er au 11 février, avec tous les champions continentaux et un club du pays d'accueil. Mais comme cette année, le Wydad Casablanca cumule ces deux statuts, il y aura aussi les vice-champions d'Afrique, les Égyptiens d'Al Ahly, qui disputeront un premier tour contre les Néo-Zélandais d'Auckland City. Le Wydad, lui, apparaîtra au deuxième tour face aux Saoudiens d'Al Hilal et le Real Madrid, de champion d'Europe, seulement au stade des demi-finales. Le football européen, justement, son actualité nous emmène d'abord en Angleterre, car la 20e journée de Premier League est chargée en derby, à commencer par celui aujourd'hui de Manchester. Philippe Auclair l'a bien évidemment suivi avec attention et il va nous dire tout de suite ce qu'il en a pensé. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
United, avide de revanche contre City après son entreprise 6 en octobre à l'aller. Eh bien, les Red Devils l'ont prise, cette revanche, en l'emportant 2-1 après un mauvais départ. Bonne affaire comptable, Philippe, et surtout un possible retour dans la course au titre franchement inespéré.
Oui, parce que quand on regarde le classement ce soir, on se rend compte qu'avant, évidemment, le derby du nord de Londres, Arsenal va à Tottenham ce dimanche, Manchester United, qui compte un match en plus, n'est plus qu'à 6 points d'Arsenal. On voit également la dynamique du club, les victoires qui suivent les victoires. On voit aussi la manière, on voit l'esprit de corps. Une déclaration au passage de Bruno Fernandes à la fin de la rencontre qui, je pense, n'aura pas laissé insensibles les supporters de Manchester United quand il a dit que nous travaillons tous les uns pour les autres, quand nous travaillons ensemble, nous voyons la différence que ça fait. Bon, petite barbe peut-être qui était envoyée à la direction d'un de ses compatriotes qui est désormais en Arabie Saoudite. Hein, je pense que c'est comme ça qu'on le verra. Mais cette équipe de Manchester United, bon, qui a été en difficulté, hein, qui d'ailleurs son entraîneur Eric Ten Hag ne s'en est pas caché en seconde période, bonne première période, ensuite mise sous la pression par un bon Manchester City. Ensuite, de quoi est un fait de jeu qu'on va être obligé de mentionner, hein, j'imagine, mais un Manchester United qui a monté des qualités qu'on ne lui connaissait plus depuis un certain temps et qui finalement s'est imposé à la régulière avec un nouveau but de Marcus Rashford. Vous vous souvenez peut-être que Eric Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, avait dit à l'encontre de Marcus Rashford, il peut marquer 20 buts par saison pour nous. On avait pris ça pour une petite pique. Mmh. Et ben, il est bien parti pour faire en sorte. Hein. C'est but après but, match après match pour Marcus Rashford. Un superbe Bruno Fernandes. Et au bout du compte, un Pep Guardiola qui a eu des déclarations assez particulières à la fin de la rencontre. Il a dit « Je m'en moque si on ne gagne pas le championnat d'Angleterre ». Bon, à prendre avec une grosse pincée de sel. Mais le fait est qu'on a vu une équipe de United qui est beaucoup plus solidaire, beaucoup plus imaginative, beaucoup plus créatrice, surprenante. Quand vous pensez que Luke Shaw, l'arrière-gauche de l'équipe d'Angleterre, joue maintenant arrière central à la place de Harry Maguire ou Lisandro, vous vous dites que c'est un peu particulier, mais ça fonctionne et le public est derrière. Et pour Manchester City, mine de rien, c'est 18 journées maintenant jouées en cette saison, déjà une troisième défaite et une équipe qui a moins bien fonctionné, on peut le dire aujourd'hui, même s'ils ont ouvert la marque par le remplaçant Jack Grealish. Mais ils n'ont pas eu de réponse à la superbe réaction de Manchester United. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un moment de flottement pour Manchester City, mais c'est plus indicateur d'un redressement de United, des rouges de Manchester, que d'un fléchissement des bleus. C'est comme ça qu'on va le dire. Mais évidemment, ceux à qui ça peut profiter, c'est Arsenal.
Alors, Arsenal, on le rappelle, donc toujours leader avec 44 points, qui jouera l'un des autres derbies de ce week-end demain à Tottenham. Manchester City, 39 points et United, 38 points. Et puis, alors, Liverpool, inquiétant vraiment face à Brighton, qui a sombré à Brighton, 3-0. Les Reds, 9e du classement. Mais surtout, à ce rythme-là, bien, la Ligue des Champions ne sera pas pour eux la saison prochaine. Mais vu le jeu qu'ils ont produit aujourd'hui, ça serait quand même assez bizarre qu'ils y soient.
Au vu de ce qui a été présenté aujourd'hui à Brighton, la Ligue des Champions, on peut oublier. Je crois très honnêtement que Jürgen Klopp a maintenant d'autres priorités. La première, c'est de colmater les brèches dans un navire qui prend tôt de toutes parts. La seconde, c'est peut-être de se concentrer sur la Ligue des Champions, où Liverpool a toujours une grosse carte à jouer, bien évidemment. Et on sait qu'il est très croyant, de faire ses prières pour que ses joueurs blessés reviennent le plus vite possible. On peut peut-être quand même rappeler qu'il s'agit de Diaz, Nunez, Jota, Firmino, Arthur Melo et Virgil van Dijk. Mais cela dit, même sans ces joueurs-là, Liverpool devrait être capable de faire mieux que ce qu'on a vu cet après-midi, qui était tout simplement une catastrophe, qui était une capitulation, une défense inexistante. Je cite Jamie Carragher, légende des Reds, « Cette défense, aussi mauvaise que quelque autre défense dans cette première ligue. » C'était son commentaire à la fin de la rencontre. Quant à Jürgen Klopp, autre citation, « Je ne me souviens pas d'un match aussi mauvais et dans toute ma carrière, pas seulement à Liverpool. » Donc ça vous donne une idée du désastre que ça a été cet après-midi à Brighton. Ça s'est terminé 3-0, ça aurait pu être 4, 5, 6-0. Je pense qu'on n'aurait pas nécessairement crié à l'injustice. Et tout simplement, il y a quelque chose qui ne tourne absolument plus rond. La question maintenant pour Jürgen Klopp, qui est bien évidemment arrivé, alors tous les spécialistes kloppiens vous le diront, la fameuse 8e saison, qui lui a toujours été fatale, que ce soit à Mayence, que ça a été au Borussia Dortmund. La question, c'est maintenant de trouver une nouvelle façon d'énergiser cette équipe en quelque sorte, de faire en sorte qu'elle se comporte comme Liverpool, comme le Liverpool que l'on connaît, que l'on aime, et qui aujourd'hui fait vraiment peine à voir. Mais s'il continue sur cette lancée, très honnêtement, la place en Ligue des Champions, vous le disiez, mais c'est même pas la peine de l'imaginer. Elle est totalement hors de portée quand on compare ce que fait Liverpool en ce moment aux équipes qui sont devant. Et quand je parle des équipes qui sont devant, je parle aussi d'équipes comme Brighton ou Fulham, pas seulement de Newcastle, Manchester United, Manchester City et Arsenal. C'est tout simplement catastrophique. Quelque chose doit être fait très rapidement, mais quoi exactement ? Personne ne semble le savoir.
Merci beaucoup Philippe Auclair en ligne de Londres. Les trois derniers matchs de cette journée de Première Ligue demain avec Tottenham Arsenal, donc à 16h30, temps universel. Chelsea, Crystal Palace et Newcastle, Fulham. On enchaîne avec la Serie A italienne où là-bas le suspense pour le Scudetto est nettement en train de s'estomper alors qu'on n'en est même pas à la mi-saison puisque le leader Naples a frappé hier un très grand coup et sur la tête en plus de son poursuivant, la Juventus Turin, à l'issue de la 18e journée. Bonsoir Matteo Cioffi.
Bonsoir Christophe.
5-1 pour le Napoli, toujours plus offensif face à une Juve assommée par, entre autres, encore une fois, l'efficacité d'un grand Victor Osimhen.
Oui, reconnaissons tout d'abord que le Napoli est désormais une équipe capable de gérer le stress d'un match aussi tendu, comme souvent ce n'était pas le cas dans le passé. Et hier soir, après avoir encaissé les buts du 2-1, les hommes de Spalletti, au lieu de s'affoler, sont restés concentrés, ont entamé la deuxième mi-temps en agressant encore plus la Juve. Une stratégie qui a abouti à 3 buts supplémentaires des Napolitains. Souligner le doublé du Nigérien Victor Osimhen, qui a renforcé son rôle de meilleur buteur de la Serie A avec 12 réalisations. Luciano Spalletti, à la fin du match, lui a encore une fois rendu hommage. Écoutons-le, le technicien.
Osimhen est un joueur complet très fort, le plus fort de tous dans son rôle. Je suis curieux de voir jusqu'où il peut arriver, car il a encore une marge de progression incroyable. Par exemple, il doit régler sa frappe, qui doit être plus coordonnée au mouvement de son corps, ou mieux juger la distance avec l'adversaire lorsqu'il voit arriver le ballon vers lui. Mais il reste impitoyable lorsqu'il se lance dans un duel avec l'adversaire, et lorsqu'il s'envole, personne n'arrive plus à l'arrêter. Ce soir, on en a eu une nouvelle confirmation avec Bremer, que je considère comme un des meilleurs défenseurs du championnat.
Luciano Spalletti, Matteo, ce carton des Napolitains leur rappelle quelques bons souvenirs à eux, évidemment, et par la même occasion des mauvais à la Juventus.
Oui, commençons par les mauvais en effet, car la dernière fois que la Juve avait perdu sur ce même score, c'était en 1993 face à Pescara, qui avait ouvert la mise avec son milieu de terrain qui s'appelait, eh bien oui, Max Allegri lorsqu'il était joueur. Deuxième chose à retenir, le club napolitain avait déjà battu la vieille dame 5-1 en 1990. Il y avait à ce temps-là Diego Maradona et cette victoire avait permis au Napoli de s'adjuger la Supercoupe d'Italie, dernier trophée remporté par le Pibe d'Or avec le maillot de ce club.
Naples, 9 points d'avance donc pour l'instant sur le Milan AC. Le Milan AC qui a pris seul la deuxième place après avoir sauvé le point d'un match nul tout à l'heure de but partout. Matteo, des Milanais qui s'en sortent bien quand même, hein, au bout d'une semaine globalement pas terrible.
Oui, semaine où les Milanais se sont fait éliminer par le Torino en Coupe d'Italie. Aujourd'hui, un nul décevant, mais vu la première partie du match, ça pouvait aller pire pour le 11 de Stefano Pioli. Face à Lecce, les rossoneri se font surprendre après seulement 3 minutes du coup d'envoi. Théo Hernandez, en essayant d'anticiper un adversaire, trompe son propre gardien. Plus tard, Lecce double la mise avec un coup de tête du défenseur Leonardo Baschirotto. Au retour de vestiaire, le Milan se ressaisit. Léao à la 58e minute redouble le score grâce à une frappe calibrée sur le premier poteau. Puis 12 minutes plus tard, combinaison gagnante entre Olivier Giroud et le capitaine Davide Calabria qui permet à ces derniers de déposer dans les filets le ballon de l'égalisation de partout qui ne changera plus jusqu'au sifflet final. Pour le tenant du titre, le sommet s'éloigne à 9 longueurs.
Deux buts partout à Lecce. Et puis c'est le résultat tout chaud de la soirée. Matteo, il y a quelques instants, l'Inter Milan a eu beaucoup de mal à battre un relégable, le Hellas Vérone 1-0.
Oui, et pourtant tout a bien commencé pour l'Inter qui après 100 secondes seulement a ouvert le score grâce à une précise frappe du gauche de Lautaro Martinez à son 9e but en championnat. À ce moment, on a envisagé une victoire fleuve pour l'Inter. Faux, car les Nerazzurri se sont contentés de conserver l'avantage d'un seul but, tandis que Vérone essayait d'être dangereux mais sans vraiment y parvenir. Dans l'ensemble, match assez soporifique, pas grand chose à signaler sinon le résultat d'un but à 0 pour l'Inter qui permet au Milan de rejoindre la Juve à la 3e place à moins 10 du Napoli.
Merci beaucoup Matteo Cioffi, bonne fin de soirée en Italie. Les trois résultats du jour en Ligue 1, deux définitifs, un en cours. C'est la 19e journée. Lens, deuxième du classement général, poursuit sa superbe série de victoires à domicile en battant Auxerre 1-0. Les 100 et or en profitent pour revenir provisoirement à 3 longueurs du Paris Saint-Germain. Marseille, troisième, garde également le bon rythme en dominant Lorient 3-1. Les Merlus avait pourtant ouvert le score grâce au Nigérian Terem Moffi. En revanche, ça se passe pas très bien. Une fois encore pour Lyon, dominé qui plus est à domicile par l'avant-dernier Strasbourg. 2-1, il reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer dans la seconde période. Deux buts signés alsaciens de l'Ivoirien Jean-Eudes Aoulou et du Sénégalais Habib Diallo. La suite demain avec en affiche de clôture à 19h45 TU Rennes-PSG. Les Rennais gardés par Steve Mandanda. Et si on vous le rappelle, c'est tout simplement parce qu'il a annoncé aujourd'hui à son tour et 5 jours après le capitaine Hugo Lloris, sa retraite internationale à 37 ans. Il aura porté le maillot bleu 35 fois depuis la toute première en mai 2008. Dans les années 90, il a incarné l'un des premiers moments de gloire du football gabonais. L'ancien sélectionneur Alain Da Costa est mort cette semaine à l'âge de 87 ans. Il a fini par succomber au cancer qui le rongeait depuis des années. Nommé 3 fois à la tête de la sélection, c'est à lui qu'une certaine génération aurait pu faire sienne le célèbre slogan de l'Olympique de Marseille, à jamais les premiers, puisqu'il a amené le Gabon en quart de finale de la CAN 96 en Afrique du Sud, et ce pour la toute première fois. Aucun technicien n'a réussi à le faire avant lui. Notre correspondant Fritz Koum nous retrace les grandes lignes du parcours d'Alain Da Costa avec quelques-uns de ses contemporains.
L'homme a passé plus de 50 ans au service du football gabonais. Il débute sa carrière d'entraîneur au milieu des années 70, d'abord en club où il dirige 4 clubs dont USM et Manga Sport, avec lesquels il gagne 3 championnats et 3 coupes du Gabon. En 87, il commence avec l'équipe nationale qu'il dirige à 3 reprises et gagne en 88 la Coupe de l'UDEAC au Cameroun. Mais c'est en 96 en Afrique du Sud qu'il va réussir l'une des plus belles performances de sa carrière en devenant le premier entraîneur qui a qualifié le Gabon en quart de finale de CAN. Vice-président de la FEGAFOOT à l'époque, le colonel Lucien Nazaire Apanga a apprécié le technicien pour cet exploit historique.
C'est sans comparaison pour moi. Da Costa demeure jusqu'au dernier jour qu'il nous quitte le meilleur entraîneur que le Gabon ait connu. L'entraîneur ou l'équipe, on ne juge de sa valeur qu'au résultat. Et Da Costa a amené l'équipe nationale du Gabon au niveau des quarts de finale en 96. Pour la première fois et jusqu'à ce jour où nous parlons, même en jouant chez nous au Gabon, avec toute la population et même le chef de l'État derrière, on n'a pas fait mieux qu'en 96.
Défenseur central en 96, Anissé Yala se souvient des qualités de manager d'Alain Da Costa Soares.
Il avait un management participatif. Après, sa relation avec les joueurs, c'était une relation de père à fils. C'était une relation de franchise, de respect. Il avait une longueur d'avance sur son temps par rapport au management. C'était donc quelqu'un qui était d'une hauteur dans le milieu. Que retenir de l'homme? Tout simplement la simplicité, la maîtrise de son travail, le respect de ses collaborateurs, l'humilité qu'a toujours eu l'homme.
Quand il était actif, il a encouragé certains joueurs de devenir entraîneurs, à l'exemple d'Alain Mandro, l'actuel entraîneur du Stade Mandi de Port-Gentil.
Il va se rapprocher de moi, il va me dire un mot, comme il m'appelait. Est-ce que tu ne souhaiterais pas devenir entraîneur comme moi? Si cela te plaît, je pense que le moment est venu. Pendant que tu termines joueur, ce serait déjà mieux que tu prennes les catégories de jeunes. À l'époque, à Petro, il n'y avait plus de catégories de jeunes. Je lui dirais, oui papa, ça me plairait. Je pensais que c'était une façon de m'écarter du groupe. Il avait vu en moi les profondeurs peut-être d'un entraîneur.
Signalons qu'Alain Da Costa Suarez a fait 66 matchs avec l'équipe nationale, surnommée à l'époque Azingo National. Fritz Kum, Libreville, RFI.
C'est parti depuis mercredi pour le mondial masculin de handball 2023 en Pologne et en Suède. 32 équipes en lice. Aucun des favoris ne s'est pris les pieds dans le tapis d'entrée de jeu à l'occasion du tour préliminaire. Hier, le Danemark, le double tenant du titre, n'a fait qu'une bouchée de la pauvre Belgique, 43-28. La Suède, championne d'Europe 2022, est déjà qualifiée pour le tour principal en battant ce soir le Cap-Vert 34-27. Mais les Cap-Verdiens gardent néanmoins leur chance de qualification pour le tour principal grâce à leur victoire inaugurale jeudi sur l'Uruguay. Parmi les 5 représentants africains, c'est l'Égypte, double championne continentale en titre, qui a déjà fait la plus forte impression en battant hier la Croatie 31-22, les pharaons classés dans le top 10 mondial lors des deux dernières éditions et quatrième des derniers Jeux Olympiques affichent clairement leurs ambitions. Quant à l'équipe de France, elle a également validé dès son deuxième match et sans trop de difficultés son billet pour la suite en balayant la faible Arabie Saoudite tout à l'heure à Katowice 41-23. Du travail bien fait pour le sélectionneur tricolore Guillaume Gilles.
C'est un match satisfaisant, même si effectivement l'opposition et le rapport de force qui est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau international rend ces rencontres un peu spéciales, avec beaucoup de situations un peu peu orthodoxes. Mais les garçons ont le mérite d'être sérieux sur l'ensemble de la partie. Un score qui s'est construit tout au long de la partie. L'impression de ne pas avoir fait grossir l'infirmerie aussi ce soir et d'avoir permis de bien répartir les temps de jeu. Donc c'est une belle soirée.
Guillaume Gilles, interrogé par beIN Sport, les Bleus termineront leur tour préliminaire lundi contre la Slovénie. Et malgré la qualification déjà acquise, eh bien la victoire restera importante pour garder les points en vue du tour principal et se faciliter la tâche en vue des quarts de finale. Outre l'Égypte et le Cap-Vert, l'Afrique est présente dans ce mondial avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Pas à la RDC comme en 2021. À l'époque, un joueur congolais s'était fait remarquer autant par son physique que par son jeu, le pivot Gauthier Mvumbi, 1m95 et 137 kg, ce qui lui avait valu le surnom de Shaq du handball en référence à la légende du basket, un autre pivot, Shaquille O'Neal. Ce surnom est revenu aux oreilles de l'ancienne star des Lakers d'Orlando ou encore de Miami, et ce qui n'aurait pu être qu'un buzz sur les réseaux sociaux a fini par déboucher en décembre dernier à New York sur une vraie rencontre entre Shaquille O'Neal et son fan, Gauthier Mvumbi. Aujourd'hui handballeur à Angoulême en National 2, la 4e division française, est devenu ambassadeur de sa discipline aux États-Unis grâce au club de Détroit. Il nous a raconté les circonstances dans lesquelles il a pu enfin voir son idole.
Moi, j'étais parti parce que je devais promouvoir le handball avec le club de New York. Vu que le club de New York et le club de Détroit, ils ont des liens. Vu que moi, à la base, je suis ambassadeur au club de Détroit. Avant de partir aux États-Unis, je lui avais envoyé un message en lui disant bah, écoute, venir à telle date. Et il m'a répondu, je crois, ouais, 2-3 jours après, en me disant qu'il sera à New York à partir du dimanche. Alors qu'initialement, il était au Texas à ce moment-là. Donc, je sais qu'il a fait, entre guillemets, une écartade dans son planning pour pouvoir venir à New York, en fait. Il était dans un bar, donc il m'a dit de le rejoindre dans le bar, donc je l'ai rejoint. Quand je suis arrivé dans le bar, moi, ce qui m'a marqué, c'est que pour m'accueillir, il s'est levé. Après, il m'a fait une accolade. Après, on a pu discuter assez longuement. Il était content de me voir. La première chose qu'il m'a dit, en fait, c'est « Je suis vraiment content que tu aies pu venir, parce que tu me l'avais dit. » Et t'as tenu ta parole, je suis fier de toi.
Quelle impression il vous a laissé finalement, Shaquille O'Neal, après cette soirée? Il est impressionnant, évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui?
Moi, j'ai trouvé ultra simple, accessible. En fait, le Shaquille O'Neal que nous, on voit un peu partout, un peu funny, un peu cool, un peu gentil. Bah, vraiment, je l'ai ressenti de cette même manière-là, en fait.
Il paraît qu'il vous a laissé sa veste en souvenir.
Ouais, il m'a laissé sa veste en souvenir. Ouais. Super cadeau. Moi, je vais lui envoyer mon maillot de match là, très prochainement, parce que je ne l'avais pas avec moi à ce moment-là, donc je l'ai envoyé.
Et il en sait un petit peu plus sur le handball maintenant, ou c'est une discipline qui lui reste encore largement inconnue?
Bon, aujourd'hui, donc, j'ai pu aller vers lui donc, pour le voir, et ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit, parce qu'il y aura des projets en cours avec lui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il sait ce que c'est le handball.
Votre rôle d'ambassadeur à Détroit, vous l'avez en fait depuis mai 2021, c'est-à-dire 3 mois après ce qui a contribué à votre notoriété au Mondial en Égypte. Ce rôle d'ambassadeur, ça consiste en quoi concrètement?
L'idée, c'est de pouvoir faire connaître le handball aux gens, parce que il y aura les Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles. Il y a déjà une équipe de handball à l'échelle internationale.
Qui est présente au Mondial 2023, d'ailleurs.
Exactement. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir beaucoup de clubs dans le pays pour pouvoir attirer les investisseurs et faire de la formation et voir ce qui est possible d'être fait à l'intérieur du pays, en fait.
Ça attire les gens un petit peu, même à niveau amateur. C'est une curiosité, le handball, pour l'instant?
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une curiosité. Il faut, je pense, appuyer certains boutons. Et la preuve, il y a un partenariat entre le club de New York et Montpellier Handball, qui est déjà en cours. Ça fait déjà quelques mois. Je pense que c'est une très bonne chose.
Gauthier, 2 ans après votre mise en lumière, si l'on peut dire, grâce au Mondial en Égypte, vous êtes aujourd'hui en National 2, alors qu'en 2021, vous étiez en National 1. Comment est-ce que vous viviez cette situation? Votre soudaine notoriété, finalement, ne vous a pas si profité que ça?
Ça n'a pas spécialement d'importance. J'ai fait ma saison en National 1. J'avais joué le maintien, quelque chose que je n'avais jamais vécu. Et j'ai réussi quand même à maintenir mon club, donc ça c'était cool, au club de Pouzauges. Mais je voulais, entre guillemets, quelque chose de plus attrayant. Et en signant à l'ETEC, c'était un peu dans ce que je voulais, voir le haut du panier, en fait. Et pour la preuve, aujourd'hui, je suis premier dans mon club. Et je suis en train de voir justement le haut du panier. J'espère pouvoir les accompagner au mieux pour aller chercher cette montée.
Est-ce que vous avez été finalement un petit peu déçu de ne pas signer dans d'autres clubs? Vous parliez à l'époque de clubs espagnols, peut-être. L'effet post-mondial n'a pas été finalement si intéressant pour vous?
Non, pas spécialement, parce que à l'époque, il n'y avait pas de mal d'offres. Mais j'ai préféré, entre guillemets, quand même jouer à la sécurité. Et ça me va bien. Ça me va très bien.
C'est votre profil de joueur qui ne correspond pas forcément à beaucoup d'attentes de la part d'autres clubs. On rappelle que vous êtes plutôt en attaque, hein, côté pivot, et pas tellement en défense.
Surtout dans le handball d'aujourd'hui, en fait. Le handball, il va plus vite. La plupart des clubs ou la plupart des équipes, on va dire, marquer un but, c'est bien en attaque, mais il faut juste pas en prendre un juste après. C'est pour ça que mon profil de joueur ne m'a pas joué en ma faveur, même si j'ai pu prouver au monde entier que j'avais largement les capacités de pouvoir jouer. Les deux visions n'ont pas suivi, en fait.
Gauthier Mvumbi, qui poursuit loin des projecteurs désormais sa carrière de handballeur en club, mais aussi en sélection, avec comme prochains objectifs une qualification pour les Jeux africains cet été au Ghana et la CAN 2024 dans un an en Égypte avec les Jeux olympiques de Paris en ligne de mire. C'est terminé au Groupama Stadium de Lyon avec une nouvelle défaite de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, cette fois face à Strasbourg. Défaite confirmée 2-1, but signé côté alsacien Aoulou et Diallo, réduction du score d'Alexandre Lacazette sur pénalty juste avant la pause. Ça ne s'arrange pas pour l'OL qui pour l'instant reste 8e du classement, mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer demain, et notamment des adversaires qui pourraient lui passer devant. Dernière info concernant la 13e et avant-dernière étape du Dakar en Arabie Saoudite, nouveau succès pour Sébastien Loeb en auto, la 6e d'affilée, un record dans l'histoire de l'épreuve. Le pilote français s'est imposé au bout des 675 km, dont 154 de spécial, entre Shaïba et Al-Ofouf, devant le Qatarien Nasser Al-Attiyah, à qui la victoire finale demain ne devrait pas échapper, car malgré une belle série, Sébastien Loeb accuse encore un retard de plus d'1h20 sur le leader du général. Voilà, Mondial Sport baisse le rideau pour ce soir. Merci Alice Ménard pour la réalisation. Rattrapage possible en podcast RFI.fr ou via l'appli RFI Pure Radio. Rendez-vous demain pour la suite. 21h31, dans un instant, 24 ans en France. Raphaël Rennes, bonne soirée.